Donc on va enchaîner avec l'intervention de Louise Barrière. Donc Louise, tu es doctorante en art, Université de Lorraine, et tu prépares une thèse sur les festivals punk féministes en France et en Allemagne.
Pour revenir déjà rapidement sur la jeunesse de cette communication, par rapport notamment... par rapport à mon sujet de thèse, qui est donc effectivement les festivals punk, queer et féministes en France et en Allemagne. Quand on m'a proposé d'intervenir à cette journée d'études, j'ai regardé mes bases de données et j'ai trouvé aucun festival de ce type au Havre, en tout cas rien qui rentrait dans la définition que j'ai. Du coup, je suis partie à la recherche d'autres événements qui auraient pu m'intéresser. Et je suis tombée sur deux concerts, donc a priori des... quelque chose de plutôt anecdotique, c'est pas grand-chose de concert sur l'histoire de toute une scène musicale. Mais ces deux événements, au regard de mes thématiques de recherche, s'avéraient plutôt intéressants, et ils constituaient en fait des études de cas assez typiques des mutations des scènes punk féministes post-année 2000. Je vais revenir tout d'abord sur ce que sont ces événements, puis j'expliquerai, on fera énormément d'allers-retours entre l'Amérique du Nord, le Havre, d'autres villes de France... Et voilà, histoire locale, histoire globale, c'est le titre de cette session d'intervention. Et ce sera tout à fait le schéma de ma présentation. Premier événement auquel je me suis intéressée, il a lieu le 21 novembre 2013. La salle de musique actuelle Havraise Le Tetris programme l'artiste électro-berlinoise Peaches dans le cadre du festival Automne en Normandie qui portait sur le thème masculin-féminin. L'annonce publiée sur l'agenda Mapado à cette occasion mentionne à la fois une attitude queer, des paroles ouvertement sexuelles, des costumes provoquants, une allure androgyne, aux côtés de sonorités rock, électro et punk. Deuxième événement, celui-ci a lieu le 16 février 2019, et c'est au tour de l'association Fake Live d'inviter le groupe Surfboard à occuper la scène du MacDead. Le président de l'association mentionne à ce propos que, très impliquée dans la cause féministe, la chanteuse est une véritable emblème de l'émancipation. Le groupe new-yorkais est quant à lui signé sur Cult Records, le label de Julian Casablancas, chanteur du groupe The Strokes. Ces deux descriptifs ne sont en fait pas sans rappeler les mouvements queercore et Riot Girls, nés en Amérique du Nord, plus précisément autour de Toronto pour le queercore et d'Olympia pour les Riot Girls, au début des années 1990. 30 ans plus tard, ces derniers continuent donc visiblement d'influencer la création musicale. Ma communication se propose ainsi de parcourir ces trois décennies afin d'observer les évolutions dont ces événements, programmés au Havre à 6 ans d'intervalle, sont tous deux témoins, c'est-à-dire le rapprochement, notamment avec les musiques électroniques, et les circulations entre mainstream et underground. En effet, si les concerts de Peaches et Surfboard au Havre pourraient sembler anecdotiques, comme je l'ai déjà dit, leur analyse permet de mettre en valeur des dynamiques typiques de la trajectoire globale des cultures musicales punk, queer et féministes. S'intéresser à cette micro-histoire locale nous permettra de penser le développement de scènes musicales insérées dans des circuits internationaux. Donc pour commencer, il me paraissait important de revenir sur l'histoire des mouvements Riot Girl et Queercore qui naissent tous les deux en Amérique du Nord au tout début des années 90, voire à la fin des années 80, et qui s'organisent dans un premier temps autour de groupes et de fanzines avant de se développer sous forme de collectifs locaux et d'événements sociaux et musicaux. On va voir tout de suite comment. Le mouvement Riot Girl, il naît à Olympia, dans l'état de Washington, donc c'est le nord-ouest des États-Unis, au tout début des années 90, et se donne pour objectif d'insuffler une perspective féministe dans la scène punk locale. Des groupes comme Bikini Kill, Evans to Betsy ou Bratmobile vont très vite devenir ces figures de proue, tandis que les activistes du mouvement conçoivent également des fanzines dont elles se servent comme plateforme médiatique indépendante pour partager leurs idées. La diffusion de ces fanzines à une échelle nationale, voire internationale, de même que les tournées des groupes, permettent de rallier un certain nombre de jeunes femmes à ce nouveau mouvement punk féministe naissant, si bien que des antennes locales se développent sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Celles-ci sont également invitées à se rassembler dès 1992, lors de la première convention Riot Girl organisée à Washington, D.C. Très vite, le mouvement commence à attirer l'attention des médias au fur et à mesure qu'il grandit, des médias qui sont également issus de la presse professionnelle et mainstream, et les groupes Riot Girl vont sentir peu à peu que cette industrie journalistique déforme les messages qu'ils souhaiteraient faire passer. C'est donc en partie pour cette raison que le mouvement s'éteint très rapidement dès en fait, le milieu des années 90. Il serait pourtant erroné de penser que ces valeurs ont à ce stade complètement disparu de la scène, des scènes musicales et en particulier de la scène punk, car en réalité, elles vont très vite réapparaître dans leur ensemble, sous une nouvelle forme, avec l'organisation de la première Lady Fest à Olympia en août 2000. Le festival se présente sur son site internet comme, je cite, « un événement communautaire à but non lucratif, créé par et pour des femmes, afin que celles-ci puissent présenter, célébrer et encourager leurs travaux et leurs talents artistiques, organisationnels et politiques. » Comme l'analyse Elke Zobel, une chercheuse autrichienne, en 2005, la Lady Fest d'Olympia va très rapidement inspirer d'autres collectifs locaux qui s'emparent de son nom et de son concept et qui vont se rassembler dans un réseau international qui possède maintenant des avatars sur 4 continents, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie. En outre, il est à noter que la programmation musicale du premier festival compte en tout cas des groupes directement issus du mouvement des années 90, comme Printmobile, ainsi que de nouvelles formations comme Sleater-Kinney, dans laquelle on retrouve notamment Corinne Tucker, qui officiait auparavant dans Evans to Betsy, ou The Butchies, le nouveau groupe queercore de Kaya Wilson, fondé après son départ de Team Dresh. Cela me permet de faire une rapide transition vers l'histoire du mouvement queercore, qui était quant à lui apparu quelques années avant les Riot Girls, donc dès la fin des années 80, autour de Toronto pour le Canada et plutôt San Francisco Olympia également pour les États-Unis. Il s'employait en fait à rassembler toutes les personnes LGBT fans de musique punk qui se sentaient doublement marginalisées, d'un côté dans la scène punk pour leur orientation sexuelle et de l'autre dans les mouvements gays plus institutionnels pour leur engagement dans la culture punk. De même que les Riot Girls, le queercore voit naître des groupes phares comme Pensy Division ou Fifth Column et des fanzines comme Homocore ou Outpunk, lesquels ont tous inspiré des collectifs locaux comme Homocore Chicago. Aux États-Unis, des événements comme la convention Spoo ou le Dirty Bird Queercore Festival organisé en San Francisco en 1996, le festival Homo à Gogo qui s'est tenu à Olympia puis à San Francisco entre 2002 et 2009, ou plus récemment le Fed Up Fest de Chicago et le Get Better Fest de Philadelphie, ont également contribué à dynamiser le mouvement. Alors que les Riot Girls étaient parfaitement ancrées dans les scènes punk, punk hardcore, voire grunge, de même que le queercore, les années qui suivent la mise en sommeil du mouvement vont être l'occasion de diversifier les esthétiques musicales féministes. Manon Labrie analyse notamment ce qu'elle nomme un tournant électroclash, et elle écrit que dans quelques villes d'Amérique du Nord, donc, à partir de 97-98, des musiciens et musiciennes se lancent dans l'expérimentation de nouveaux sons et se mettent à combiner musique électrique et musique électronique. L'électroclash naît de cette sorte de chaud-froid, de la synergie opérée entre le dynamisme rythmé, parfois fanfaron, et une sorte de désespérance latente qui ne dit pas son nom, perceptible dans des sons glaçants. Tandis que la culture populaire des années 80 suscite un regain d'intérêt, l'électroclash reprend à son compte les rythmiques dansantes de ses productions musicales, qu'il combine avec des éléments punk et des sonorités plus industrielles, en tirant parti des avancées technologiques en matière de MAO. Elle va lier immédiatement l'émergence de ces nouvelles formes musicales aux pratiques queer et féministes, du fait notamment de l'histoire conjointe des mouvements LGBT et des musiques électroniques. Parmi les artistes sur lesquels porte son analyse, ressortent principalement les noms des groupes Le Tigre, nouvelle formation musicale de Kathleen Anna, qui officiait précédemment dans Bikini Kill, et Chicks on Speed, un groupe allemand, je crois. Ces acteurs vont contribuer à la circulation et à la popularisation d'une esthétique électroclash entre musique électronique de danse, punk et féminisme queer, qui conserve donc des liens forts avec ses ancêtres du mouvement Riot Girl. On peut ainsi par exemple remarquer qu'en 2003, quand le modèle des Lady Fest est importé pour la première fois en France par le collectif nantais Wonderground, le festival propose une affiche faisant figurer à la fois les noms de Sexy Sushi et ceux de groupes punk comme Happy Home Makers ou Amethyst. Cette esthétique électroclash ou électropunk circule donc en France également par cet intermédiaire. Si l'on revient justement plus en détail sur les caractéristiques visuelles ou esthétiques de l'électroclash, Manon Labrie écrit, toujours à propos des Chicks on Speed, les Chicks on Speed ont raison de se fier à leur flair esthétique, leur look, les pochettes de leurs albums, leurs clips introduisent une nouvelle tendance visuelle dans les milieux artistiques underground, féministes, queer. Débauche de couleurs vives, de doré, de fluo, lignes géométriques, alternance de futurisme et de rétro, leur style opte délibérément pour l'exubérance tape-à-l'œil et décomplexée, avec un poil de second degré. Il y a là quelque chose de bien similaire à ce que l'on retrouve chez Peaches, et je vais vous passer rapidement un extrait vidéo si j'y arrive. Wake up and lick it like this. Happy pig and truffle, suckle, snuffle, up against, stuffing it, up in it. Are you up to it? Vagina plastic. idée. D'après son site internet, Peaches est une icône féministe, musicienne, productrice, réalisatrice et performeuse. Elle a passé près de 20 ans à repousser les limites et à exercer une influence incommensurable sur la pop culture mainstream, en la poussant hors de ses retranchements, en ouvrant une voie sexuelle et progressiste à son image, qui va également jalonner le parcours d'innombrables personnes. Elle a collaboré avec des artistes aussi divers qu'Iggy Pop, Daft Punk, Kim Gordon et Major Lazer. On retrouve également sa musique au fil de produits culturels comme Lost in Translation, The Handmaid's Tale et Broad City, entre autres. Son travail a également été étudié dans des universités aux quatre coins du monde. Je ne suis pas sûre qu'elle ait jusque-là été étudiée à l'Université du Havre, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, si ce n'était pas le cas, ça fait maintenant une université supplémentaire à son palmarès. Elle arbore un côté punk, notamment marqué, comme vous avez peut-être pu le voir dans le très court extrait que je vous ai passé, par sa coupe de cheveux et son maquillage, dont le bleu électrique rappelle à la fois finalement le tape-à-l'œil de l'électroclash que décrit Manon Labrie et celui des crêtes des punks des années 70. Le costume qu'elle porte sur la vidéo qu'on a vue, entre Rési et paillettes, semble être autant de clins d'œil à une sorte de cuirisation des tenues des premiers punks, et cette alternance de futurisme et de rétro, apparemment typique de l'électroclash. Elle présente ainsi un look et une attitude résolument punk par son esthétique et ses côtés provocateurs qu'évoquent aussi bien ses costumes que ses titres très explicites de ses morceaux. Celui qu'on a entendu s'appelle Vaginoplastie, la chirurgie esthétique du vagin. Le tout donc sur fond de musique électronique, comme vous avez pu l'entendre. Il est par contre important de nuancer l'importance de ce virage électro au sein des scènes punk féministes. En effet, si l'on s'intéresse aux programmations des festivals, comme je le fais pour ma thèse, quand ils arrivent en France au début des années 2000 et qu'ils s'inspirent de la Ladyfest d'Olympia, on se retrouve finalement pas tant face à typiquement un virage vers l'électro qu'à une sorte de multiplicité de virages vers des styles musicaux très divers, dont l'électro, mais aussi le hip-hop, etc., qui viennent tous se coaguler autour de cette inspiration punk. J'ai pas le temps de développer là-dessus et c'est pas vraiment le sujet, mais on pourra éventuellement en reparler. En ce qui concerne maintenant Surfboard, le deuxième groupe que je voulais aborder, il entretient des liens plus directs avec l'esthétique musicale des Riot Girls du début des années 90 en proposant un son résolument punk. Un article du Guardian mentionne ainsi par exemple un air de famille entre Friendship Music, le premier album de Surfboard, et Bikini Kill, groupe phare du mouvement Riot Girl, entre autres artistes. Je cite « Les 17 bombes musicales qui composent Friendship Music » ne sont pas sans rappeler l'esprit de Bikini Kill, Pussy Galore, Patti Smith et X. Fait amusant, l'article relate par ailleurs d'une anecdote au sujet du concert que le groupe a donné au Havre et pendant lequel la chanteuse aurait fait du crowd surfing sur un homme torse nu. Je vous montre également un court extrait vidéo, pas du concert du Havre, parce que j'en ai pas trouvé, mais d'un clip, c'est pour avoir une idée de l'esthétique de laquelle on parle.
To those of you who treat our world like trash, go out too far, can't save you.
Donc Surfboard, d'après le site de leur label, Surfboard est un groupe de punk venu de Brooklyn. Il est composé de 4 membres que sont David Head, Alex Kilgore, Sean Powell et il est mené par Danny Miller. Il tire son inspiration de la scène punk des années 80 et produit une musique explosive et vibrante. L'expérience live de Surfboard est viscérale et conflictuelle. Leur musique punk, bombardée de feedback et de guitares acérées, s'oppose à cette ère numérique pleine d'intolérance. En bref, ils rayonnent d'amour et d'amitié. Le groupe est également signé, comme je l'ai signalé, chez Cult Records, le label de Julian Casablancas, auparavant chanteur du groupe The Strokes. Un tel lien n'est pas sans appeler un certain succès, ou tout du moins une certaine visibilité. Pourtant, et nous l'avons déjà brièvement évoqué, les Riot Girls entretenaient quant à elles un rapport compliqué, voire conflictuel, avec les espaces médiatiques, notamment mainstream. les mouvements, groupes et artistes qui s'en inspirent encore aujourd'hui se retrouvent néanmoins à nouveau à flirter occasionnellement avec une certaine visibilité ou forme de succès, et donc d'une certaine manière avec le mainstream ou la mainstreamisation, ceci au cours de leur développement. C'est par exemple le cas de Sleater-Kinney, par exemple, qui signe chez Sub Pop, dont Warner détient la moitié des parts, et de même pour Le Tigre, dont le troisième album sort chez Universal, etc. C'est également quelque chose que l'on retrouve chez Peaches, qui collabore notamment avec Daft Punk, comme je l'ai déjà mentionné, si l'on s'en tient en tout cas à la description présente sur son site. Ainsi, bien que ceci continue de revendiquer une certaine indépendance, il s'agit en fait toujours de cas limites, de collaborations qui s'établissent au niveau de la création, comme Peaches et Daft Punk, ou de la production, comme Sir Bort et Cult Records, ou Sleater-Kinney et Sub Pop / Warner. On ne peut pas vraiment considérer Surfboard comme mainstream, le groupe reste finalement assez peu connu. Par contre, Julian Casablancas et les Strokes bénéficient quant à eux d'une certaine renommée. Les productions du label, qui a fêté ses 10 ans cette année, sont par ailleurs distribuées par Sony. Avec Cult Records, on est finalement bien loin d'un système DIY résolument underground, comme en parle Fabien Hein dans Sociologie du système D. Pour autant, le groupe ne tombe pas non plus complètement dans une sorte de pop mainstream. Au final, il se retrouve dans une sorte d'entre-deux, comme un espace de négociation entre underground et mainstream. Ainsi, quand un groupe comme Surfboard part en tournée, il alterne finalement entre des SMAC, ou des lieux institutionnels et conventionnés, et des bars comme le McDade's, où il a joué au Havre. Cela présente notamment l'avantage de faciliter les tournées internationales, et donc la diffusion d'une esthétique et de valeurs punk féministes, tout en conservant des liens avec la base de cette scène, qui se développe quant à elle dans des espaces alternatifs. Bien sûr, ce n'est pas le cas de l'intégralité de la scène punk féministe contemporaine, dont la majorité des groupes restent profondément ancrés dans des scènes underground, tandis qu'une minorité bénéficie finalement d'un certain succès et d'une reconnaissance médiatique, sans pour autant plonger totalement dans la mainstreamisation. On pourrait parler de semi-mainstream ou de semi-indépendance, au choix, selon le côté qu'on veut mettre en valeur. Mais il faut par contre relever que dans des espaces punk féministes restés particulièrement underground, comme les festivals que j'étudie, les after-parties sont également l'occasion d'une réappropriation d'une certaine musique mainstream par, justement, une scène très sous-culturelle, très underground. Par exemple, j'ai entendu des titres de Beyoncé, de Rihanna, de tout un tas d'autres artistes complètement pop qu'on pourrait qualifier de vendus à l'industrie musicale. Et à ce titre, il faut également mentionner que le nom de Surfboard est une référence au titre de Beyoncé « Drunk in Love », qui désigne apparemment une position sexuelle. On a donc un jeu avec le mainstream qui consiste soit à tester ses limites, soit à s'en réapproprier les objets ou les codes avec plus ou moins de second degré. S'instaure ainsi une sorte de fluidité entre des frontières que l'on plaque parfois sur l'organisation d'une industrie musicale qui tend, au regard de ce terrain d'étude, à se révéler moins rigide qu'elle n'en a l'air. De l'autre côté, on a un jeu avec les codes musicaux du punk que l'on pousse toujours vers davantage de diversification. Cet exposé m'a permis d'explorer deux mutations des mouvements punk féministes, l'une plutôt esthétique, l'autre relevant davantage d'une sociologie, voire d'une économie de la musique étudiée et de sa scène. Ces études de cas nous éclairent ainsi sur les transformations des mouvements punk féministes, mais aussi sur la manière dont celles-ci arrivent en Europe, en France, voire même très précisément ici au Havre, de manière certes plutôt marginale, mais très représentative d'un schéma international.
Merci Louise.